C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Les trois brigands de Tommy Ungerer. Il était une fois trois vilains brigands, avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre, et le troisième une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre, et les hommes, les plus courageux, prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux, et, naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante grognon, chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui déplaisait pas du tout et elle fut bien contente quand tout à coup, les trois brigands se dressèrent devant elle. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit très moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites de tout ça ? » demanda-t-elle au brigand. Ceux-ci se regardèrent, tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau, comme ceux des brigands, mais rouge. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisaient des maisons dans le voisinage. Et bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. Et à la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec trois tours imposantes, une pour chaque brigand, pour les remercier.
L'homme à l'oreille coupée de Jean-Claude Mourlevat. Il y avait dans un port de Norvège un très vieil homme à qui manquait une oreille. « Comment l'as-tu perdu ? » lui demandait-on dans l'auberge où il venait s'enivrer chaque soir. Et il répondait volontiers. « Oh, ça remonte à loin, » disait-il. « J'étais encore un petit garçon, j'avais 9 ans à peine, alors voyez. Un cirque ambulant est passé dans notre village. Ça ne coûtait pas très cher, mais nous étions pauvres et mes parents ne pouvaient pas me payer l'entrée. Alors, le soir de la représentation, j'y suis allée en cachette. Je me suis faufilée sous la toile du chapiteau, ni vue ni connue, et j'ai pris place dans les gradins. C'était plein à craquer. La musique assourdissante, l'odeur forte des animaux, tout ça, j'étais comme ivre. Il y a eu les chevaux qui tournaient, puis les acrobates voltigeurs, puis les petits caniches dressés. J'en restais la bouche ouverte. Quelle émotion pour moi qui n'avais jamais rien vu. Enfin, le directeur du cirque a annoncé un numéro de fouet. J'ai oublié le nom de l'artiste. Pasito, Pancho, un nom comme ça. Il s'est avancé dans sa tenue de cow-boy, accompagné de son assistante, en maillot de bain. Et clac, clac, ça a commencé. D'abord, l'assistante a mis une longue cigarette de papier dans sa bouche. Clac. Au premier coup de fouet, la cigarette a perdu 1 centimètre. Clac. À chaque coup, elle en perdait un de plus. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un minuscule mégot. Alors, elle a avancé ses lèvres maquillées de rouge, comme pour donner un baiser, puis elle a légèrement basculé la tête en arrière, pour ne pas se faire couper le bout du nez, je suppose. Il y a eu un roulement de tambour et clac, le mégot a volé. Ensuite, ils ont demandé un volontaire. C'est juste à ce moment-là que j'ai vu un camarade d'école en face de moi, de l'autre côté de la piste. Il me faisait de grands signes. J'ai levé le bras pour lui répondre. Et ils ont cru que je voulais venir. Ils m'ont mis une cigarette de papier dans les oreilles, une dans chaque. Clac, clac. De quoi vous rendre sourd. Les gens applaudissaient et ils riaient aussi, sans doute à cause de mon air ahuri. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu « Oh !» Ça faisait comme une vague dans les gradins. L'assistante s'est aussitôt évanouie et quelques spectatrices aussi. J'ai senti quelque chose de tiède qui dégoulinait dans mon cou. J'ai passé la main. C'était mon sang. Alors j'ai compris. J'ai regardé par terre et j'ai vu mon oreille, là, dans la sciure. J'ai oublié la suite. Je me revois transportée dans des bras étrangers. Je revois des gens très flous qui me tiennent les mains. Je revois surtout ma mère qui pleure et mon père qui lève les bras au ciel. « Ah, ce gamin, ce gamin !» Voilà comment je l'ai perdu, mon oreille. Ça vous évitera d'avoir à me le demander la prochaine fois. Le lendemain, il disait « Mon oreille ? Oh, j'avais 27 ans et j'allais me marier. Ma petite amie était bien amoureuse, oui, bien amoureuse. Et moi, je la trouvais assez gentille, ma foi. D'après tout le monde, on allait drôlement bien ensemble. Et je crois que c'était vrai. Et puis elle est arrivée, l'autre, là, avec ses taches de rousseur sur le nez. J'ai su tout de suite que j'étais fichue. À la première seconde, elle m'a électrocutée, cette fille. Je vous le jure, elle avait été fabriquée sur mesure pour moi, depuis ses orteils mignons jusqu'à ses mèches blondes. Elle était toute jeunette. Pourquoi elle s'est jetée sur moi comme ça et pas sur un autre? Je n'en sais rien. Je n'étais même pas beau. Elle m'a fait tourner chèvre. J'essayais de l'éviter, mais c'était impossible. Elle me cherchait. « Je t'aime, qu'elle disait, je t'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Je n'en voudrai jamais d'autre que toi. » Et ainsi de suite. Et elle pleurait. Et je pleurais aussi, parce que j'en étais tombé amoureux. Elle m'a rendu fou, quoi. Si bien que j'ai fini par écrire une longue lettre à ma pauvre fiancée. Comme je n'arrivais pas à le dire, je l'ai écrit. Je vous jure que j'ai trempé le papier de mes larmes tellement j'avais honte, tellement j'étais malheureux. Je lui ai expliqué que j'allais partir avec une autre, que j'étais désolée, que la vie était mal faite et blablabla. Bla bla. Vous savez bien les bêtises qu'on peut dire dans ces cas-là. Et un soir, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai donné la lettre. C'était dans sa cuisine. Je me suis assise sur une chaise en face d'elle, tête basse, et j'ai attendu. Elle a lu en silence jusqu'au bout, avec un grand calme. Puis elle m'a regardée sans aucune expression, un peu comme si elle me voyait pour la première fois. J'ai pensé, l'espace d'un instant, que rien n'allait se produire, qu'elle me dirait « Eh bien, si tu veux me quitter, quitte-moi » et que je partirai tout simplement, que je l'embrasserai une dernière fois et qu'on se séparerait bons amis, ou presque. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme ça. En effet, elle a replié la lettre, l'a posée sur la table, et puis, savez-vous ce qu'elle a fait ? Elle s'est jetée sur moi. Ma chaise a basculé et nous avons roulé tous les deux au sol. J'ai bien tenté de me défendre, mais c'était sans espoir. Je me battais contre une véritable furie, une panthère en rage. Dans la lutte, elle a refermé sa mâchoire sur mon oreille et ne l'a plus desserrée. Vous avez compris maintenant ? C'est ma fiancée qui m'a arraché cette oreille avec ses propres dents. Et maintenant, fichez-moi la paix avec cette histoire. Ne m'en parlez plus. Le lendemain, il levait les bras au ciel. Vous me fatiguez avec cette oreille. Je vous l'ai dit 100 fois. C'était un soir où j'avais trop bu. Je me suis endormie contre un poêle et ça me l'a brûlé. Voilà. Le lendemain, elle n'avait pas brûlé, mais gelé au contraire. J'avais tout juste 20 ans et j'étais soldat. Mon unité est partie en campagne ce fameux hiver où la température est descendue à moins 60 degrés. Vous vous rappelez ? Les oiseaux tombaient du ciel, congelés. Quand on faisait pipi, ça gelait à mesure. Non, vous ne vous rappelez pas, vous êtes bien trop jeune. Qu'importe. Une nuit, on nous désigne, un camarade et moi, pour aller repérer la position de l'ennemi. On nous met à chacun sur le dos un de ces grands manteaux de camouflage tout blanc et nous voilà partis dans la neige, pas fiers. On accomplit tout de même notre mission, tant bien que mal. Seulement au retour, ça se gâte. On est pris dans une tempête. On se perd, on revient sur nos pas, on tourne en rond et on finit par se coucher dans la neige, serrés l'un contre l'autre. Le vent hurlait tellement qu'on s'entendait à peine. De temps en temps, on se criait « Ça va, toi ?» Et l'autre répondait « Ça va !» En réalité, on était sûr d'y rester. Mais au matin, on a entendu des voix. « Oh, les gars, vous êtes morts ?» On n'était pas morts. On était juste enfouis sous la neige. Un des soldats nous avait marché dessus par hasard. Ils nous ont chargés sur leurs épaules et ramenés au camp. Le capitaine se pointe. Il nous félicite. Et puis, il a voulu imiter Napoléon, qui pinçait l'oreille de ses grognards pendant la retraite de Russie. Il avait vu ça sur des images, sans doute. Bon, il prend la mienne, entre le pouce et l'index, et la secoue un peu. Seulement, elle était gelée. Ça a fait « clink », comme quand on casse un glaçon sur un toit. « Clink ». Et l'oreille lui est restée dans les doigts au capitaine. Vous auriez vu sa tête ? Ça vous embouche un coin, non ? Et pourtant, c'est la vérité vraie. Le jour d'après, il l'avait perdu à la suite d'un pari stupide dans un port de Java. Ou bien il l'avait vendu à un milliardaire à qui il en manquait une. Un ours la lui avait arrachée dans le Grand Nord canadien. Elle avait été grignotée par un rat pendant qu'il délirait dans les fièvres du scorbut sur un bateau de pêche. Elle avait été sectionnée par des pirates sanguinaires, tranchée par un mari jaloux, cuisinée au courbouillon par une femme folle. 6 années durant, le vieil homme raconta chaque soir une histoire différente. Et il le faisait si bien que chaque soir, on le croyait. Jusqu'au lendemain. Une nuit cependant, sa chaise resta vide à l'auberge. Le patron s'en inquiéta et, à la fermeture, il se rendit chez le vieil homme à quelques rues de là. Il le trouva mourant sur son lit, seul. La chambre était misérable, en grand désordre. L'aubergiste assista son ami de son mieux sans songer à autre chose qu'à lui rendre un peu plus douce ses dernières heures d'existence. Mais, au milieu de la nuit, voyant que la vie s'en allait, il lui vint une idée obsédante. Il résista un peu. À quoi bon ennuyer ce brave homme jusque sur son lit de mort ? Mais, finalement, la tentation fut la plus forte. Il se pencha tout près du visage du vieux et lui souffla. « S'il te plaît, pourrais-tu me dire, pendant que tu en as encore la force, comment tu as perdu cette oreille, en vrai cette fois ? Je t'en prie, je le garderai pour moi. » Le vieil homme lui fit signe de la main d'approcher, puis, d'une voix éteinte, il balbutia. « Cette oreille, je ne l'ai jamais perdue, car je ne l'ai jamais eue. Je suis né sans. Un léger sourire se dessina encore sur ses lèvres pâles et il rendit son âme. « Merci, » dit l'aubergiste, « merci. » Quelques jours plus tard, en mettant de l'ordre dans les maigres affaires du vieil homme, l'aubergiste fut intrigué par une photographie ancienne. Une photo en noir et blanc avec ses bords dentelés. On y voyait un équipage sur le pont d'un bateau. Un peu en retrait de tous les autres, un jeune mousse assis sur un tonneau fixait l'objectif. L'aubergiste trouva à ce garçon un air de malice qui lui était familier. Il saisit une loupe et se pencha sur la photo. Il observa d'abord les yeux du garçon. C'est à l'œil qu'on reconnaît les gens. Pas de doute, c'était bien là le vieil homme du temps de sa jeunesse. Un détail pourtant stupéfia l'aubergiste. Le gamin avait ses deux oreilles sur cette photo, une à gauche et une à droite, les deux bien en place. Il fit glisser la loupe sur les mains, posée sur les genoux, revint au visage, au menton, au nez, aux yeux surtout, au droit, puis au gauche, et là. Il sursauta si fort que la loupe lui en gicla des mains. Depuis l'autre côté de la mort, l'œil venait de lui faire un clin.
Par le jeu des anagrammes, sans une lettre de trop, tu découvres le sésame des mots qui font d'autres mots. Me croiras-tu si je m'écris que toute neige a du génie ? Vas-tu prétendre que je triche si je change ton chien en niche ? Me traiteras-tu de vantard si une harpe devient phare ? Tout est permis en poésie, grâce aux mots, l'image et magie.
Le chameau et sa bosse. Voici maintenant l'histoire suivante qui raconte comment le chameau a eu sa bosse. Au commencement des temps, quand le monde était tout neuf et tout ce qui s'ensuit, et que les animaux commençaient tout juste à travailler pour l'homme, il y avait un chameau qui vivait au beau milieu d'un désert hurlant parce qu'il ne voulait pas travailler. D'ailleurs, c'était un hurleur lui-même. Alors, il se nourrissait de bouts de bois, d'épines, de tamarisques, de forbes et d'un tas de choses piquantes. Tout ça dans la oisiveté la plus mortelle. Et quand on lui adressait la parole, il disait « bof ». Exactement, « bof ». Et rien de plus. Alors, le cheval vint le voir, le lundi matin, avec une selle sur le dos et un mors dans la bouche, et il lui dit « Chameau, ô chameau, viens avec nous et trotte comme nous autres. »« Bof », dit le chameau. Et le cheval s'en fut le dire à l'homme. Alors le chien vint à lui, un bâton dans la gueule, et lui dit « Chameau, ô chameau, viens avec nous, va chercher et rapporte comme nous autres. »« Bof », dit le chameau. Et le chien s'en fut le dire à l'homme. Alors le bœuf vint à lui, le joue sur la nuque, et lui dit « Chameau, ô chameau, viens labourer comme nous autres. »« Bof », dit le chameau. Et le bœuf fut le dire à l'homme. À la fin de la journée, l'homme appela le cheval, et le chien, et le bœuf, et leur dit « Vous trois, oh vous trois, je suis bien désolé pour vous, avec ce monde tout neuf et tout ce qui s'ensuit, mais cette chose qui dit « bof » dans le désert est incapable de travailler. Sans cela, elle serait déjà ici. Je vais donc la laisser tranquille, et vous, vous travaillerez deux fois plus pour compenser. » Cela fit que les trois ne furent pas contents du tout, avec ce monde tout neuf et tout ce qui s'ensuit. Ils tinrent conseil à la limite du désert, discutèrent, palabrèrent, blablatèrent. Le chameau arriva en mâchant ses herbes. Et plus que jamais, dans une oisiveté mortelle, il rit en les regardant, puis il dit « bof » et repartit. Mais voilà que passa le génie qui s'occupe de tous les déserts. Il passait en roulant dans un nuage de poussière, car c'est ainsi que voyagent les génies, parce que c'est magique. Et il s'arrêta pour discuter et blablater avec les trois. « Génie de tous les déserts, » dit le cheval, « est-il juste qu'une créature soit paresseuse dans ce monde, tout neuf, et tout ce qui s'ensuit ?»« Certainement non, » dit le génie. « Eh bien, » dit le cheval, « il y a quelqu'un au beau milieu de ton désert hurlant, et c'est un hurleur lui-même, quelqu'un avec un long cou et de longues jambes qui n'en a pas fichu une rame depuis lundi matin. Il ne veut pas trotter, « Oh !» dit le génie en sifflant. « Mais c'est mon chameau, par tout l'heure de l'Arabie. Et que dit-il quand on lui parle de ça ?»« Bah, il dit bof !» dit le chien. « Il ne veut pas aller chercher ni rapporter. »« Et dit-il autre chose ?»« Seulement bof !» dit le bœuf. « Et il ne veut pas labourer. »« Très bien !» dit le génie. « Je vais le bouffer comme il faut, si seulement vous voulez bien attendre une minute. » Le génie s'enveloppa dans son manteau de poussière, survola le désert et trouva le chameau, toujours dans l'oisiveté la plus mortelle, qui regardait son propre reflet dans une flaque d'eau. « Mon cher faiseur de bulles, dit le génie, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Il paraît que tu ne travailles pas dans ce monde tout neuf et tout ce qui s'ensuit. »« Bof, dit le chameau. » Le génie s'assit par terre, le menton dans la main, et commença à méditer une grande magie, pendant que le chameau continuait à se regarder dans la flaque d'eau. « Depuis lundi matin, dit le génie, tu donnes du travail supplémentaire aux trois animaux à cause de ton oisiveté mortelle. » Et il continua de méditer des magies, son menton dans la main. « Bof, dit le chameau. « Si j'étais toi, je ne répéterais pas ça, dit le génie. Tu pourrais le dire une fois de trop. Faiseur de bulles, je veux que tu travailles. » Alors le chameau dit encore une fois « Bof !» Mais à peine l'avait-il dit qu'il vit son dos, dont il était si fier, s'enfler et devenir une grosse bosse ballante. « Tu vois ça ?» dit le génie. « C'est ton propre bof que tu as mis sur le dos en refusant de travailler. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Tu n'as rien fait depuis lundi, quand le travail a commencé. À présent, tu vas te mettre à l'ouvrage. « Mais comment je pourrais ?» dit le chameau, avec ce bof sur le dos. « C'est fait exprès, dit le génie, parce que tu as manqué les trois premiers jours. Dorénavant, tu seras capable de travailler trois jours pleins sans manger, parce que tu vivras sur ton bof. Tu ne diras pas que je n'ai rien fait pour toi. Maintenant, sors du désert, va rejoindre les trois et tâche d'apprendre à te conduire. En route !» Alors le chameau se mit en route avec son bof et tout ce qui s'ensuit, et il s'en fut rejoindre les trois. Depuis ce jour-là, il porte toujours un bof sur le dos. Nous disons une bosse aujourd'hui, pour ne pas le vexer. Mais il n'a jamais rattrapé les trois jours de travail qu'il a manqué au commencement du monde, et il n'a jamais pu apprendre à se conduire.
Il était une fois une souris, fable indienne, écrite par Marcia Brown. Alors qu'il s'interrogeait sur ce qui est grand, sur ce qui est petit, un ermite aperçut soudain une souris. Que poursuivait un corbeau ? Il se précipita au secours du petit animal et, l'arrachant au bec du vorace corbeau, il le ramena dans sa hutte, au fond de la forêt. Là, il réconforta la souris, à grand renfort de lait, de graines, de riz. Mais regarde bien. Un chat s'approchait, queue hérissée et toute moustache dehors. L'ermite connaissait tout autant la magie que les prières. Voyant le danger qui menaçait la petite souris, il la transforma en un gros chat. Mais cette nuit-là, un chien aboya dans la forêt. Effrayé, le minou courut se cacher sous le lit. L'ermite ne perdit pas une seconde pour savoir si le chien était plus grand ou plus petit que le chat. Il transforma le chat en un grand chien. Hélas, peu de temps après, un tigre affamé qui rôdait dans la forêt bondit sur le chien. Par bonheur, l'ermite était tout prêt et d'un seul geste, il transforma le chien en un majestueux tigre royal. Du coup, tu imagines l'attitude du tigre. Tel un paon, il se promenait désormais dans la forêt en jetant des regards méprisants sur les autres animaux. Ne perdant pas une miette de ce qui se passait, l'ermite gronda le tigre vaniteux. « Sans moi, lui dit-il, Tu ne serais qu'une misérable petite souris, en admettant que tu sois resté en vie. Tu n'as donc aucune raison de prendre ces airs de grand seigneur. Le tigre se sentit offensé, humilié. Il oubliait tout ce que le vieil homme avait fait pour lui. Le prochain qui me dira qu'autrefois j'étais une souris, je le tue, maugréa-t-il. Mais l'ermite devina les pensées du tigre. Tu es un ingrat. Retourne donc dans la forêt et redeviens souris. Et c'est ainsi que ce tigre, orgueilleux et majestueux, redevint sur le champ une humble petite souris, fuyant tout apeurée dans la forêt. On ne la revit plus jamais. Quant à l'ermite, il reprit ses réflexions sur ce qui est grand et sur ce qui est petit.
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron », une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche en partenariat avec les radios du département, Radio des Moutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.